Le 31 octobre 1992, troisième cours.
Avant de répondre à ce questionnaire important et imposant, je continue un peu ce que je vous disais ce matin. Le Logos révélé dans le prologue de Saint Jean, dans cette vision d'Apocalypse, et dans ce début de la première épître de Saint Jean, c'est comme le sommet de la révélation du mystère de la parole de Dieu. Et le Verbe est devenu chair. De la parole de Dieu liée au mystère de l'incarnation. C'est Jésus qui nous révèle ce qu'il est auprès du Père, le Fils est tout relatif au Père, et ce qu'il est aussi avec le Père pour nous. Je vous enverrai le Paraclet. Et le rôle du Paraclet, c'est de nous donner un sens divin de la parole de Dieu. Concevoir la parole de Dieu de la manière la plus intérieure qui soit. Le don d'intelligence qui permet à notre foi de ne pas nous arrêter à l'écorce, au conditionnement, mais d'aller beaucoup plus loin et de découvrir le mystère. Et je vous disais, l'autre aspect si important de la révélation johannique, qui est aussi un sommet, c'est le mystère du Paraclet. Vous voyez, dans Saint Jean, c'est l'ultime enseignement du Christ. Chapitre 14, 15, 16. C'est un enseignement prophétique qui nous ouvre par le Verbe au mystère du Paraclet. Dans le mystère de la très sainte Trinité, le Père et le Verbe spirent l'amour. Si dans toute parole divine, il y a la présence du Verbe, il y a un lien très profond entre le mystère de la seconde personne de la très sainte Trinité et la communication de la lumière divine pour nous dans le mystère de la parole divine, qui est un don de l'Esprit Saint, qui est un don du Verbe et du Père. On peut dire que toute parole inspire l'amour, toute parole divine nous conduit à l'amour. Et je crois qu'on ne doit jamais séparer ces deux aspects, le Verbe et lumière. Et le Verbe inspire l'amour. toute parole divine reçue dans une foi qui s'exerce d'une manière toute divine sous le souffle de l'Esprit Saint, grâce au don d'intelligence et au don de sagesse, nous conduit à l'amour au plus intime de nous-mêmes. Toute parole divine permet à notre cœur de découvrir le mystère du Paraclet et de vivre du mystère du Paraclet dans l'agapé, dans la charité, dans l'amour. En Dieu, lumière et amour ne font qu'un. Intelligence et volonté ne font qu'un. Le mystère de la très sainte Trinité nous révèle ces deux processions, celle selon la lumière, celle selon l'amour, dans l'unité et dans la simplicité absolue de Dieu, dans la créature. Il y a une distinction entre les exigences de l'amour et les exigences du cœur, de la volonté spirituelle. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'opposition. Ce sont les hommes qui ont fait les oppositions, mais pas Dieu. Tout amour réclame la lumière, et toute lumière réclame l'amour. Dans notre vie chrétienne, l'exigence de la vérité est essentielle. Nous n'avons pas le droit de ne pas chercher la vérité. Et ça, l'Église nous le demande, puisque l'Église a condamné le fidéisme. Il ne faut pas l'oublier. Vatican I a condamné le fidéisme. C'est-à-dire à condamner ceux qui, au fond, considéreraient que toute recherche de l'intelligence philosophique serait inutile. On peut considérer que pour telle personne, c'est inutile, c'est évident. Mais on ne peut pas considérer que c'est inutile en soi. Notre intelligence, Dieu nous l'a donnée. Elle est faite pour la recherche de la vérité. Et la philosophie n'a pas d'autre sens. La vraie philosophie, la philosophie réaliste, n'a pas d'autre sens que la recherche de la vérité au service de l'amour. L'amour est premier, l'amour est dernier. Quand il s'agit du regard vers Dieu, ceci tant au point de vue naturel, au point de vue humain, qu'au point de vue surnaturel, au point de vue chrétien, encore beaucoup plus au point de vue chrétien. Notre intelligence est ennoblie par la foi et transformée par la foi. Une foi amoureuse, je dirais une intelligence amoureuse. Et la foi est tout entière ordonnée à l'épanouissement divin de l'amour. Et la parole de Dieu, elle est reçue dans notre foi vivante, une foi aimante, une foi amoureuse, grâce à l'exercice des dons du Saint-Esprit. Et toute parole de Dieu nous conduit à l'amour. Peut-être pas toujours immédiatement, mais elle est faite pour cela. L'enseignement que Dieu nous donne, c'est pour que nous aimions plus. C'est vraiment cette union avec le cœur du Christ et par Jésus avec le Père sous le sceau de l'Esprit Saint qui a tout dit dans notre vie et toujours avec le support de la parole de Dieu tant que nous sommes sur la terre. Il ne faut pas quitter la parole de Dieu. On dépasse le mode, le conditionnement humain de la parole de Dieu pour vivre de sa signification divine, pour vivre du mystère. Et le mystère est au-delà de la parole, puisque la parole nous révèle le mystère de Dieu, le mystère du Verbe. Le mystère du Père, le mystère du Paraclet. On se sert toujours de la parole de Dieu. On ne peut pas la quitter. Mais, sous le sceau de l'Esprit Saint, nous contemplons le mystère. On ne contemple pas la parole. La parole nous conduit au mystère. Nous contemple le mystère. Et on se sert de la parole. N'oubliez pas ce que je vous rappelais ce matin et qu'il ne faut jamais oublier ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux à propos du mystère même de la parole de Dieu. Efforçons-nous donc, chapitre 4, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe à l'exemple de cette désobéissance. Car elle est vivante, la parole de Dieu, efficace, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Et il n'est pas de créature invisible devant elle. Tout est à nu et mis à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il faudrait bien préciser toutes ces qualités particulières de la parole de Dieu. Je crois ça très important à bien saisir. Elle est vivante, elle est liée à sa source. Et c'est la parole qu'on dit ça. Et la parole de Dieu est toujours liée à sa source, puisque le Verbe de Dieu est présent dans toute parole divine. Et c'est ça qui la rend vivante. La parole de Dieu ne vieillit pas. Quand vous dites par exemple, « Ah, je connais déjà !» ce passage de la parole de Dieu, ce que nous disons spontanément, j'ai déjà entendu, je connais bien. En réalité, on doit toujours la recevoir plus profondément. Ce que je vous disais ce matin, elle a des sens infinis. Je ne peux jamais dire que j'ai épuisé la parole de Dieu, jamais. Elle est vivante, liée à sa source. Et c'est ce qui caractérise la parole de Dieu. Déjà, au point de vue humain, vous voyez, quand vous recevez une lettre de quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous aimez la relire. Quand vous recevez une lettre d'injure, vous n'avez pas envie. Vous la lisez une fois, c'est suffisant, et puis il fait vite au panier. Il vaut mieux, du reste, c'est pas la peine de la laisser devant vous. Tandis qu'au contraire, on la relit. Et chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. C'est vrai aussi pour la parole d'un philosophe intelligent. L'intelligence dépasse la parole. La parole est le véhicule de l'intelligence. Et donc, on peut relire souvent certains textes philosophiques que nous considérons comme importants. Notre intelligence est faite pour la vérité, mais la vérité, on ne la possède jamais. on la cherche tout le temps. Et la parole nous aide à la découvrir. Mais je ne peux pas dire que la parole humaine est vivante. On peut dire qu'un cours nous donne une parole vivante. Et non pas une parole écrite. C'est la différence d'assister à un cours ou d'entendre au magnétophone. Une cassette. La parole vivante, c'est celle qui est donnée directement de la source, liée à la source. Il y a une présence dans toute parole vivante. Tandis que quand vous répétez, quand quelqu'un répète, oh, très bien, vous lisez la parole écrite. Elle est quand même un peu coupée de sa source. Et pour la parole divine, c'est encore bien plus fort, puisque c'est la vie divine qui nous est donnée. Et qu'on reçoit à travers la foi, l'espérance et l'amour. Une parole vivante qui nous lie à la source. Et qui nous relie à la source. Et qui est capable de nous relier à la source. Si nous la recevons pleinement dans l'amour. Elle est vivante, elle est efficace. La parole de Dieu réalise ce qu'elle signifie. C'est très important de se rappeler ça. C'est vrai, recevoir la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'il faut l'écouter, et la lire, et l'écouter. Quand on est seul, il vaut mieux la dire tout haut pour l'écouter en même temps que la lire. C'est l'Apocalypse qui nous apprend ça. Parce qu'on regarde en écoutant, et en écoutant, on regarde, on pénètre en avance. Parole vivante et efficace. Elle réalise ce qu'elle signifie. Spirant, verbum, spirant samorem. C'est le verbe, parole divine, qui spire l'amour, qui conduit à l'amour. Et son efficacité est en vue de l'amour. C'est pas une efficacité d'ordre pratique, c'est une efficacité d'ordre divine. Plus affilé, aucun glaive à double tranchant, la grande vision de l'Apocalypse de Jésus avec le glaive dans la bouche. C'est la parole de Dieu qui vient faire ce discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Elle fait des discernements que humainement nous ne pouvons pas faire, que notre psychologie ne peut pas faire, que notre philosophie, que notre théologie ne peut pas faire. Mais la parole de Dieu peut faire ce discernement. Des discernements entre ce qui est encore trop humain. Et on s'attache à un mode humain parce que c'est plus proche de nous. Ce qui est proprement divin. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est bien ce glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. L'âme, source de vie. L'esprit, la recherche de la vérité. Facilement, on confond ce qu'il y a de vivant qui nous flatte et ce qu'il y a de vrai. Sincérité et vérité. C'est la parole de Dieu qui fait le discernement entre la sincérité et la vérité. Parce que la sincérité, c'est l'âme, c'est notre âme vivante, c'est notre vie, c'est notre affectivité. Et le discernement entre notre affectivité imaginative, ça vient de nous, alors on l'aime beaucoup. Et puis, ce qui vient directement de Dieu, ce qui est l'affectivité divine, celle du Saint-Esprit, Dieu vécu dans l'amour, vécu au plus intime de notre cœur, vécu comme l'Esprit Saint nous apprend à vivre la parole de Dieu. C'est pas seulement la lire, mais c'est la porter en nous, comme une parole vivante, comme une parole efficace, qui fait ce discernement. Comprendre que ce n'est pas nous qui faisons ce discernement, mais c'est l'Esprit Saint à travers la parole de Dieu. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Donc, elle fait des discernements que par nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Et c'est cela qu'on appelle les purifications. Les purifications, c'est que l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, nous laisse, nous fait tomber tout ce qui est trop code naturel à nous. Trop code naturel à notre intelligence humaine, à notre cœur humain. Les purifications du côté de l'intelligence et les purifications du côté du cœur. Et encore, ces purifications, c'est vraiment la parole de Dieu, vivante, au plus intime de notre cœur, qui peut faire ces séparations. Nous ne les faisons pas par nous-mêmes, par notre philosophie ou par notre théologie. Séparation mystique, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas? Des jointures et des moelles, et le juge, les pensées, les intentions du cœur. Juger, elle discerne. Elle fait le discernement pour que tout vienne de l'Esprit Saint et que tout soit saisi par l'Esprit Saint. Je crois que ce lieu, il faut souvent le relire pour que nous comprenions combien la parole divine pour nous est liée à sa source. Et sa source, c'est la très sainte Trinité elle-même. L'Esprit Saint, le Verbe et le Père. C'est toujours la très sainte Trinité qui nous parle divinement. On l'approprie spécialement à l'Esprit Saint ou au Verbe de Dieu. Mais c'est toute la très sainte Trinité. On ne peut pas dire qu'il y a trois langages. Divine qui nous relie au mystère de la très sainte Trinité par le cœur du Christ. Dans le cœur du Christ. Et le cœur du Christ est source conjointe et instrumentale au mystère de la très sainte Trinité. Et le mystère auquel nous sommes conduits, c'est toujours celui de la très sainte Trinité. C'est pour ça que toute parole divine vécue de manière toute intérieure nous met toujours en présence de la très sainte Trinité. Je voudrais maintenant répondre à quelques objections pour bien montrer, à quelques questions. Ce n'est pas des objections, ce sont des questions. La première est très délicate, mais je crois que ça va nous permettre de creuser au plan théologique. Qu'est-ce que c'est que la parole? Je l'ai déjà dit, un intermédiaire. Et ça, je crois que c'est très important. Donc toute parole implique une relation, comme tout intermédiaire. C'est un ton. Ça nous unit. Quand je vous parle, je suis uni à vous. Si vous n'êtes pas trop distrait, la distraction me sépare, vous sépare de moi. Moi, si j'ai une distraction, je m'arrête de parler et je me sépare de vous. La parole fait un lien véritable. pensée, de la philosophie, il y a cette relation qui se crée entre disciple et maître. Entre amis, on a besoin de converser. Si on ne peut plus converser, on s'écrit. Et ça maintient la relation amicale. Entre une mère et son enfant, il y a parole de la mère qui éveille l'enfant. Il y a le sourire de la mère qui éveille l'enfant, qui le réveille. Donc, c'est toujours une relation. Qu'est-ce que c'est alors ? La parole. Je peux analyser ce qu'est la parole humaine, puis nous regarderons la parole divine, un moyen de communication, de communiquer ce que je pense. Ce qui est capital à comprendre, c'est le lien entre la parole et la pensée. C'est très vieux comme problème philosophique, c'est très très vieux. Et il est moderne, aurait la tentation de couper cette relation. Alors que tous les anciens reconnaissent que la parole est le fruit de quelqu'un qui pense. Quand vous ne pensez plus, vous n'avez plus envie de parler. Sauf pour vous réveiller. Ça m'arrive. Alors on crie très fort, vous savez. On est en train de s'endormir, alors on se lève, puis on se lève, puis on se met à parler tout haut, et ça nous réveille. Puis il y a des personnes qui ne pensent qu'en parlant. Il y a des personnes qui peuvent penser sans parler. Heureusement pour la raison du matin. Il y a un grand silence, alors tu vois qu'on pense, on prie, mais prier, ça implique une connaissance affective. Évidemment, la prière peut dépasser la parole. Et même souvent, elle dépasse la parole. Puisqu'on est en contact avec le silence de Dieu pour nous. Dieu nous parle beaucoup par son silence. Parce qu'il est comme une mère. Une mère parle beaucoup par son silence. C'est le propre de l'éducation maternelle. Elle nous regarde. Un père parle beaucoup moins par son silence. C'est souvent glacial, le silence d'un père. C'est assez froid. Comme le silence d'un professeur. Vous savez, quand vous interrogez quelqu'un, puis qu'il ne sait pas, restez. J'attends. Il n'y a rien de tel qui glace plus. Et ce moment-là, il faudrait se mettre à parler et dire n'importe quoi pour supprimer ce silence glacial. C'est le professeur qui devrait faire ça. Et quelquefois, le professeur n'est plus professeur comme. C'est le professeur qui a complètement pris l'homme. Alors, comme professeur, il examine. C'est-tu quelque chose? Donc vous voyez, il y a le silence maternel de Dieu. Le silence de Dieu n'est jamais glacial, parce que Dieu ne nous examine pas. Et il y a la parole. Et la parole de Dieu conduit au silence, parce que c'est une parole aimante. Alors, au point de vue humain, la parole signifie ce que nous pensons. Elle transmet ce que nous pensons en l'habillant. Ce que nous pensons, c'est sans parole. Mais notre pensée, par parce que nous sommes des êtres sensibles. Notre pensée est toujours liée à notre imagination. Notre pensée dépasse l'imagination. Mais dans son exercice, elle est toujours liée à l'imagination. Et l'imagination a un organe sensible. Par l'imagination, je me représente. La pensée saisit la signification des choses, ce qu'est telle réalité. Seule l'intelligence saisit la signification des choses, tandis que l'imagination nous représente bien lorsque nous voulons parler, transmettre aux autres ce que nous pensons. Notre intelligence est toujours liée à l'imagination dans son exercice. Et c'est pour cela que la parole va toujours impliquer un certain symbole. Et plus la parole qui transmet notre pensée, qui transmet la signification de notre pensée, ce que nous avons pensé, ce que nous avons saisi de la réalité. On peut le transmettre de multiples manières, avec des images très différentes. Mais il y a toujours un certain symbole dans toute parole. Et plus la parole s'intellectualise, plus le symbole devient signe. Et nous parlons à quelqu'un. Alors, la raison, puisque c'est ça qu'on pose comme question, c'est-à-dire ce qu'est la parole, transmission de ma pensée, de quelque chose que je connais, et je transmets la signification de cette chose que j'ai d'abord pensée. Revêtant de mots, de symboles, de signes sensibles, et en me servant de ma voix, de mon affectivité, pour mieux le transmettre. Je vous ai dit que c'est quelque chose de très complexe, mais ce qui est au cœur de toute la parole, c'est la signification de la réalité. Qui est atteinte par mon intelligence. C'est pour ça que l'âme de la parole, c'est ma pensée. Si j'ose dire, si je prends le point de vue du corps et de l'âme, l'âme habite dans le corps. La parole implique un élément sensible, la langue. La langue, je l'ai apprise. De temps en temps, je peux inventer un mot. Je peux inventer certains mots ou prendre certains mots à la mode et exprimer quelque chose de nouveau. C'est vrai, ça. Mais normalement, la langue est antérieure à moi. Et la langue sont des mots qui ont une signification. Puisque je peux regarder la signification dans un dictionnaire, indépendamment de moi. Alors, je peux répéter le dictionnaire. Quand je répète le dictionnaire, je dis « je sais une langue ». Mais est-ce que je parle ? La parole, c'est rejoindre la signification de tel mot et rejoindre cette signification grâce. grâce à l'expérience que j'ai de la réalité. Le mot homme signifie quelque chose de particulier. Si j'ai l'expérience de Pierre, Jacques, Jean, ce sont des hommes. Et j'ai pensé intérieurement ce que c'était que l'homme. Et que je sais qu'il y a un mot qui exprime cela. Je me sers de ce mot pour transmettre ce que je connais de l'homme, ce qui m'intéresse de Pierre en tant qu'homme. Et je le communique. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est appris et il y a quelque chose qui renouvelle. Ma pensée n'est pas apprise. C'est la mémoire qui apprend. Mais ma pensée, elle implique un jaillissement actuel de mon intelligence qui pense grâce à l'expérience et par l'expérience. Il y a donc une montée vers la pensée, puis le choix des mots pour exprimer ce que je pense et le transmettre. Et la parole, c'est lorsque je transmets ce que j'ai pensé. Je peux donc regarder la parole du côté de celui qui pense et qui transmet sa pensée. Alors je dirais que c'est la source véritable de la parole. Je peux regarder ce qui est transmis, la pensée que j'ai. La réalité que j'ai expérimentée, que je connais, que j'ai analysée. Le mot substance, je prends exprès un mot savant, hein. Le mot substance ou le mot personne, pour chacun d'entre nous, hein, si on avait le temps, on ferait l'expérience. Écrivez sur un petit papier ce que signifie pour vous personne. Alors, celui qui n'a pas pensé du tout à la personne, bon, à regarder le dictionnaire, on a de la définition de la personne, il a retenu, personne c'est ça. Oui, ceci, ce n'est pas un langage vivant, c'est un langage tout simplement de répétition. Je répète, faut bien. Énormément de répétition dans notre langage. Et puis, il y a un langage qui est vrai, qui vient de ma pensée. Socrate interrogeait ceux qui lui parlaient, c'était la jeunesse, pour montrer qu'il ne savait pas ce qu'il disait et qu'il répétait. Et quand on répète, on n'avance pas, on ne progresse pas. Et la parole peut devenir une armure qui empêche le progrès. Et ces vieilles armures, vous savez, qui tiennent toutes seules. J'aime de rappeler cette petite expérience que j'avais faite à Fribourg, volontairement, du reste. Sans méchanceté, mais qui exprime bien ce que je voudrais vous faire comprendre quand on regarde ce que c'est que la parole. À Fribourg, dès qu'il y avait des conférenciers français qui arrivaient, on était quasi obligés par politesse d'y aller. Il y avait un jeune conférencier, critique de lettres, conférence très très explosive, si vous voulez, comme un beau feu d'artifice, mais visiblement pour celui qui connaissait un tout petit peu le langage un peu philosophique, il ne connaissait pas la signification des mots qu'il employait. C'était une armure étincelante une armure. On voit ça et on sent ça tout de suite. Et alors ça devient assommant et on s'énerve. Alors je me suis dit, il faut pas m'énerver. Il faut donc utiliser cela pour faire un petit exercice. Je vais noter, il faut toujours s'intéresser à ce qu'on dit, hein, poliment. Alors, je vais noter les quelques gros mots, c'est-à-dire archi-modernes, de sa conférence. Puis je notais le nombre de fois qu'il le disait. Il y en avait 10, à peu près. 7, 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Ça permettait de patienter. D'écouter comme ça, patiemment. Puis alors, après la conférence, évidemment, on réunissait tous les professeurs français, ceux qui étaient là, ou bien les personnes qui étaient là, pour féliciter le conférencier, lui poser des questions. Un peu mondain, mais quand même pas trop. Alors j'ai dit, je peux pas, je viens pas. Et puis alors on insiste. Alors j'ai dit, écoutez, non, je veux pas. On insiste tellement que je suis quasi obligé d'y aller. Alors tout le monde posait des questions. Alors, le tour est arrivé parce que je disais rien, je restais dans mon coin, j'écoutais ce que les gens disaient. On m'a demandé de parler. On m'a forcé de parler. Qu'est-ce que vous pensez? Alors j'ai dit, à la manière socratique, excusez-moi, mais j'aimerais beaucoup savoir ce que vous entendez par tel mot que vous avez employé assez souvent. Je n'ai pas dit 10 fois ou 15 fois, non, c'était un peu charrié. J'ai dit, vous avez employé souvent. Silence. Absolu. Puis un autre, un troisième, toujours le silence. Ça ne m'étonne pas du tout parce que j'aurais repris en disant, mais il me semble que ce mot, vous l'avez employé dans des significations très différentes. Et j'ai pas eu besoin de dire ça. J'ai simplement dit, écoutez, je comprends très bien. Je dis toujours à mes étudiants qu'on a le droit de passer des examens en employant un langage dont on ne comprend pas la signification. Je dis ça pour les étudiants de philosophie. Le professeur doit être suffisamment intelligent pour s'apercevoir que vous employez des mots dont vous ne connaissez pas la signification. Donc vous n'avez pas l'expérience. C'est le professeur, vous avez le droit de rouler le professeur en examen haut, c'est une bonne douane. Parfaitement le droit. C'est du bon jeu. Mais quand vous faites une conférence, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que vous êtes censé communiquer aux autres ce que vous avez compris, ce que vous avez réfléchi. Vous comprenez bien, on vient vous écouter. On perd une heure. Si on n'y a rien à manger, vous devriez être en communication avec vous. Vous avez quelque chose à nous dire. Alors pourquoi pas le communiquer vraiment? Vous voyez, là où on voit la falsification du langage par la répétition, la négation du langage, on ne communique rien, puisqu'on ne sait pas ce qu'on communique. Il n'y a pas de signification. Donc c'est simplement des mots, une armure. Ces vieilles armures qu'on met dans les musées, ou qu'on trouve encore quelquefois dans certains châteaux, on voit des armures. Quand on voit une armure toute seule, à chaque marche de l'escalier, quand il y en a 30 ou 40, ça c'est impressionnant. Il y a une armée qui nous attend, mais il n'y a rien dedans. Alors, on ne s'inquiète pas. C'est pour ça que quand le mot se répète, qu'il n'y a rien derrière, c'est ennuyeux. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui fait que la parole est parole vivante? C'est la signification qui est exprimée dans le mot. C'est ça. S'il n'y a pas de signification, il n'y a pas de langage. Il y a un cri qui exprime l'appétit, les désirs du concupiscible ou les racines de l'animal. Mais ce n'est pas la parole. La parole transmet la pensée. Elle la transmet de telle manière que cette pensée, cette signification est enveloppée d'un langage plus ou moins riche, plus ou moins symbolique, plus ou moins purifié. appuyer sur Creuse. Donc il y a une intention dans toute parole, communiquer aux autres, communiquer une signification, donc le contenu, pour que l'autre la reçoive, pour que l'autre soit capable de la recevoir. Vous voyez, donc la parole va toujours impliquer ces divers éléments. Il y aura l'imagination, il y aura l'affectivité pour représenter, il y aura l'intelligence, ou une intelligence scientifique, mathématique, ou une intelligence affective qui transmet la signification. Pierre est intelligent. Je vous dis que Pierre est intelligent. Ou quand vous dites au Seigneur, Seigneur, je vous en supplie, soyez là. La prière, je peux l'étudier au plan philosophique, hein, puisque l'homme est un animal religieux et qui normalement s'adresse à Dieu et qui est une prière liturgique. Et la prière liturgique est une prière humaine et religieuse. Donc on s'adresse à Dieu. L'avantage quand on s'adresse à Dieu, c'est que on sait que Dieu comprend toujours beaucoup mieux que nous. Donc on peut dire des mots en latin qu'on ne comprend pas, ou en grec qu'on ne comprend pas, ou en hébreu qu'on ne comprend pas. Ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu écoute, il suffit d'avoir une attention pure. C'était la grande sainte Thérèse qui disait ça. La grande sainte Thérèse disait que certaines choses ne comprenaient pas le latin. Mais elle comprenait le Gloria. Et c'était suffisant pour elle.
Session de théologie, la parole de Dieu, par le père Philippe Arimon, le 31 octobre 1992, quatrième cours.
Donc, si nous voulons préciser ce qu'est la parole, au-delà des diverses modalités, parole de l'enseignement, parole de l'ami, parole, vous voyez, il y a quelque chose de commun en toujours, c'est de transmettre à un autre ou à plusieurs autres ce que nous connaissons de la réalité dont nous parlons. Transmettre à l'autre le concept, l'idée que nous faisons de la réalité. Transmettre par le fait même la signification profonde de cette réalité. Et de la transmettre pour que l'autre soit capable de la recevoir. Mais il y a une transmission, il y a l'intention de communiquer est essentielle à la parole. Et de communiquer ce que nous portons au plus intime de notre intelligence, quand nous connaissons telle ou telle réalité. Il y a donc ce circuit qu'il faut bien respecter, je crois, quand il s'agit de la parole. La réalité, ou les réalités, je veux dire la personne, n'importe quelle réalité, les personnes que nous connaissons par l'expérience. Porteuse ce concept implique toujours une signification. La signification de la réalité connue, expérimentée, est toujours dans le concept en premier lieu, dans le fruit de notre connaissance. Ceci, c'est celui qui connaît la personne.
Un journaliste transmet un fait divers. La
présence du journaliste n'est pas très forte. Sauf si je le connais, je dirais, c'est bien lui. Encore une fois, il raconte ses histoires. Mais tout de suite, alors, il y a la présence, puis je relativise, je fais une sorte d'exégèse de ce qu'il dit, parce que je le connais. Je sais que c'est un miroir grossissant par rapport à telle ou telle chose, un miroir amaigrissant pour d'autres choses. Oui. Alors on en fait cette herméneutique par rapport à la personne qui transmet. Le langage, il y a ça pour celui qui le reçoit. Si je suis très loin de la part de la personne qui parle et que ça a passé par plusieurs intermédiaires, qu'est-ce qu'on a dit au cours, hein? Alors vous pouvez, par quelqu'un qui a écouté, et puis vous demandez à 3 ou 4 personnes, et puis c'est toujours différent. Alors vous en faites une petite synthèse assez particulière. C'est comme ça que nous vivons du langage humain. Donc il y a la transmission du fruit de notre connaissance, ce qu'on appelle le concept intérieur. Verbum intérieur qu'on transmet dans la parole. Et c'est vraiment la signification découverte par la pensée de la réalité connue. Et je crois que c'est très important justement de comprendre que le langage est toujours, vous voyez, une série de relations. Première relation ici, de celui qui connaît à la réalité connue par l'expérience ou par autre chose, par quelqu'un qui enseigne, peu importe, il reçoit cette réalité connue, il la porte. Il y a une première relation ici. Il y a une seconde relation. On se sert de langage pour transmettre une parole. Ceci au point de vue humain, en respectant la diversité de cette transmission. Dans un langage affectif, d'amis, on transmet les secrets. Au contraire, dans un langage scientifique, mathématique, dans un langage philosophique, toute une série de zones de langage. Vous voyez, j'allais presque dire chaque science, chaque connaissance a son langage. Et c'est vrai, je ne transmets pas de la même façon du tout quelque chose qui me tient très à cœur et quelque chose que j'ai appris comme ça. Je redonne ce que j'ai appris. Je ne l'ai pas repensé. Alors quand on ne l'a pas repensé, on répète les mots. Voilà l'expression qu'il a dit. Du reste, c'est peut-être très juste et très intéressant, entre guillemets, voilà ce qu'il a dit. Tandis qu'au contraire, quand je l'ai porté au-dedans de moi-même, longuement, alors j'ai envie de donner un habit nouveau, une manière différente de le transmettre. Mais c'est toujours quand même la transmission de la signification de la réalité connue. C'est ça, je crois, qui est ce qui caractérise le langage. À la différence du cri. Le cri, c'est transmettre un sentiment affectif. Je transmets un sentiment affectif. La douleur, la joie. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Et dans la prière liturgique, vous avez transmission de votre connaissance à l'égard de Dieu ou d'un livre qui vous donne cela et vous le transmettez en chantant la louange. Dieu qui écoute, Dieu qui entend. Alors on sait que lui est toujours attentif. Réfléchissez à ce passage extraordinaire d'Écriture où l'on voit Élie qui a convoqué les prêtres de Baal et qui s'amuse avec beaucoup d'ironie de leur liturgie. Vos dieux dorment, tandis que nous savons qu'ils ne dorment jamais le nôtre. il est le Dieu vivant, donc il ne dort pas. Et on voit très bien la manière de transmettre à quelqu'un qui doit écouter. Autrement, ça ne signifie rien du tout. Lorsqu'il s'agit de la parole divine, l'expérience ici est changée par l'inspiration. Dieu se sert du langage humain, mais il donne à ce langage humain une nouvelle signification. Dieu est amour. Dieu est père. L'inspiration qui vient d'Esprit Saint et qui est reçue dans la foi. Celui qui reçoit et qui est transmise à la foi de l'autre. Alors, il faut préciser quelle est cette signification nouvelle. C'est là le point le plus difficile. Parce que l'écorce est la même. Dieu n'a pas inventé un nouveau langage. Et si je précise, quand je dis une nouvelle signification, c'est juste, mais il faut préciser. Qu'en réalité, la révélation reçue dans la foi, la révélation divine est vécue dans la foi de celui qui est le prophète et qui le transmet à ceux qui ont la foi, qui transmet ce message, on dirait un message, mais c'est la transmise, la transmission de quelque chose de reçu sous l'inspiration divine dans la foi et qui me permet d'adhérer à Dieu qui se révèle à moi. Quelle est la raison propre de la foi, du mystère de la foi? Si je prends le langage de saint Thomas et l'analyse que fait saint Thomas de la foi a comme raison formelle, je vais expliquer un tout petit peu, la foi a comme raison formelle la vérité première se révélant. La raison propre de la foi, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la vérité première se révélant. Ce que je crois très important à préciser. Alors qu'est-ce qu'on veut dire raison formelle? On veut montrer ce qui caractérise la connaissance de foi. Ce qu'il y a de particulier, d'unique dans cette connaissance de foi, qui est une connaissance divine, qui est une connaissance vécue par un homme, et qui transforme cet homme, puisqu'il le met en communication avec la vérité première se révélant, c'est-à-dire Dieu. Dieu qui est la vérité première, et qui se révèle à moi. L'acte de foi, recevoir cette révélation, implique un amour. Tout acte de foi implique un amour. Un amour qui incline mon intelligence pour recevoir la révélation. C'est le Concile d'Orange, 4e siècle, qui a précisé que l'initium fidei, le point de départ de la foi, est toujours un amour. La foi est une connaissance amoureuse. C'est un parle d'un professeur de mathématiques n'est pas nécessairement amoureuse pour ses élèves. Il transmet des relations nécessaires, des théorèmes, et il essaie de montrer l'évidence de certains théorèmes du point d'amour. Tandis qu'au contraire, la foi implique toujours un premier amour à l'égard de Dieu qui se révèle à moi. Et cet amour incline l'intelligence à adhérer à une vérité qui m'est transmise, qui m'est révélée. Une vérité qui n'est pas évidente et qui m'est transmise à travers un langage qui est mon langage, à travers mes pensées qui sont mes pensées. Et cette révélation que je reçois dans la foi va me permettre d'adhérer à une vérité, à un mystère qui me dépasse complètement, dont je n'ai pas l'évidence. C'est pour ça qu'au sens tout à fait précis, il faut dire que la parole divine transmet un jugement qui me dépasse complètement dans son contenu. Oh Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ceci me dépasse complètement. Je n'ai pas du tout l'évidence. Je peux comprendre que ce n'est pas contradictoire à mon intelligence humaine, et puis c'est tout. Aucune vérité révélée n'est contradictoire avec mon intelligence humaine. Je n'ai pas l'évidence. Donc vous voyez, quand je parle de signification, il faut là comprendre que en réalité, la signification dans le cas de la foi et de la révélation, c'est beaucoup plus énoncer une vérité dont je n'ai pas l'évidence. Donc la signification est très pauvre. C'est pour ça que quand je dis une nouvelle signification, c'est pas tout à fait juste. Dieu m'enseigne, c'est très vrai, mais il m'enseigne comme à quelqu'un auquel il demande cette docilité profonde de la foi. Docilité de l'intelligence qui reçoit quelque chose qu'il ne comprend pas. Ce qu'un professeur a toujours le droit de demander à ses étudiants au début. Vous n'allez rien comprendre à ce que je vous dis, mais ayez confiance. Dans 6 mois, vous comprendrez. 6 mois de patience. Il faut 6 mois pour la philosophie. 6 mois de patience. Une gestation de 6 mois. Et au bout de 6 mois, on commence à comprendre. Mais de temps en temps, on montre des choses plus évidentes pour qu'on comprenne. Mmh. Quand vous apprenez une langue, c'est la même chose. Faites confiance. Et là, c'est plus rapide. Parce que vous pouvez vous-même voir les parallèles. Vous voyez ? L'attitude de la foi au point de vue divin, à la différence de la foi humaine, c'est que c'est une confiance absolue en Dieu qui ne peut pas me tromper. Et donc auquel j'adhère à ce qu'il me dit. Alors, ce qu'il me dit est en partie quelque chose que je peux par moi-même atteindre. Et quelque chose qui me dépasse complètement. Et que je reçois grâce à cette lumière nouvelle que j'appelle l'inspiration, qui vient surélever mon intelligence en lui donnant la foi. La foi est un habitus, c'est-à-dire une qualité qui surélève mon intelligence sous la mouvance d'un amour divin pour s'ouvrir à quelque chose. chose qui me dépasse, à un mystère qui me dépasse, auquel j'adhère. La foi implique cette adhésion à une vérité nouvelle. Et c'est cette vérité nouvelle que je transmets, qui est transmise par la parole de Dieu, grâce à l'inspiration. Donc la parole de Dieu implique tout le temps l'inspiration. C'est Dieu qui me transmet sa lumière à travers un langage humain. Et parce que Dieu se sert de ce langage humain pour transmettre une vérité qui me dépasse complètement, cette transmission est dite parole de Dieu. Dans cette transmission de la parole divine, les mots dont Dieu se sert, le langage dont Dieu se sert, je peux le recevoir avec mon intelligence humaine. Ça garde son intelligibilité humaine. Et je sais, par ma foi qui reçoit cette parole, que rester à cette intelligibilité humaine, ce n'est pas recevoir la transmission de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une transsignification, pour employer un langage moderne, beaucoup plus éclairant. Il y a une transsignification dans l'adhésion de foi. Je ne reste pas à la signification du langage humain dont Dieu se sert. Rester à la signification du langage humain dont Dieu se sert, c'est très bien, mais ce n'est pas adhérer au message de foi. Tout le monde peut le faire. On peut lire la Bible en philosophe, c'est-à-dire en homme intelligent. C'est très intéressant de lire la Bible, parce que ça vous renseigne sur des tas de choses. Alors je dirais que c'est une tradition religieuse vénérable auquel j'adhère. Tu vois, auquel j'adhère, qui m'intéresse. Et pour comprendre qu'à travers ce langage, Dieu me révèle son mystère et qu'il me dépasse complètement. Ça, c'est la foi. Donc la transsignification, en réalité, est une transadhésion dans un jugement, au-delà de la signification. Alors, évidemment, vous voyez, en disant ça, est impliquée une certaine analyse de l'intelligence humaine pour comprendre que l'intelligence humaine assimile et discerne les deux grands actes de l'intelligence, l'appréhension et le jugement. Et l'appréhension, c'est l'intelligence qui est capable d'assimiler l'intelligibilité de telle réalité et de garder cette intelligibilité pour elle-même et de produire à travers et dans cette assimilation un fruit qui est le concept, qui a sa signification propre. Et le jugement, c'est adhérer à quelque chose que je connais et que je juge vrai. Au contraire, quand je juge qu'il n'est pas vrai, je n'y adhère pas. Je dis, ce n'est pas vrai, je n'y adhère pas. Le jugement implique une adhésion à la réalité connue, en tant que connue. La foi me donne une nouvelle adhésion, mais ne me donne pas de nouveaux concepts. C'est ça qui est très délicat. Et je crois ceci tout à fait juste. C'est l'analyse que donne saint Thomas au point de vue de la foi. Et je crois qu'elle est très juste. Et c'est, on adhère à un mystère par la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter à la parole. qui est intelligible pour moi. Ce que je comprends, c'est toujours la tentation. Alors que je me sers de la parole pour adhérer à un mystère qui est au-dessus, qui m'échappe. Prenez l'exemple simple du prologue. Dans le principe, le verbe était, le logos était, le logos, le verbe était vers Dieu. Et Dieu. Les trois mouvements du logos, il sort du principe, il est dans le principe, il est face au principe et il est identique au principe. Le principe est dans la source, est dans le Père. J'adhère à cela dans la foi, mais je ne comprends pas. Je peux montrer que ce n'est pas contradictoire, parce que Dieu est infini. Et donc il est possible qu'en Dieu, il y a une fécondité qui ne modifie rien, sa simplicité est infinie. Qu'en Dieu, il puisse y avoir diverses personnes, ce n'est pas contradictoire. Mais ça me dépasse complètement. Mon intelligence humaine ne peut absolument pas, par elle-même, découvrir relation intime entre le Père et le Fils, entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Je prends une autre affirmation. Le Père et le Fils spirent l'Esprit Saint. L'affirmation du credo du filioque. Je prends exprès le filioque. Puisque vous savez que les orthodoxes n'aiment pas cette affirmation du concile. Ils veulent revenir au concile précédent en disant le Père spire l'Esprit Saint ainsi que il engendre le Fils. On considère que du Père provient le Fils et provient l'Esprit Saint. Et que d'une certaine manière, l'inspiration de l'Esprit Saint vient du Fils, mais d'une manière spéciale, qu'on ne précise pas trop. Tandis que dans l'Église latine, on précise que le Fils, que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Le Père et le Fils sont dans l'unité pour être source de l'Esprit Saint. Je ne comprends pas, mais je vois la différence qu'il peut y avoir dans ces deux versions. Parce que le langage me montre bien qu'il y a deux manières différentes d'adhérer à l'Esprit Saint. Celle de l'Église latine, l'Église de Rome, et celle des orthodoxes. Et l'Église latine n'accepte pas celle des orthodoxes parce que la distinction en Dieu implique une procession. Donc, si l'Esprit Saint est distinct du Fils, il faut bien qu'il y ait entre le Fils et l'Esprit Saint un lien qui provient de la procession. Alors, nous voyons que la foi adhère à la réalité divine, au mystère lui-même, qui est la réalité divine, qui m'échappe complètement. Et que cette révélation de la très sainte Trinité ne me donne aucun nouveau concept. Je me souviens, c'était un bon père dominicain, il est mort maintenant, alors je peux sans le citer. C'est le mystère de la le mystère de la très sainte Trinité, c'est merveilleux parce qu'il me donne une nouvelle conception de la relation. Il me fait comprendre qu'il peut y avoir des relations subsistantes. Parce que en Dieu, tout ce qui est en Dieu est subsistant. essentielle et subsiste de la manière divine. Or, entre le Père et le Fils, il y a une relation réelle. Donc, il y a une relation subsistante. Alors, je dis, mais est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une relation subsistante ? Il dit, ah non, alors, ça ne vous apporte aucun nouveau concept, puisque vous ne comprenez pas. Philosophiquement, la relation n'est pas la substance, puisque c'est être relatif à un autre. Et la substance, c'est d'être source d'être. Donc, la relation ne peut pas être substance. Oh Dieu, dans le mystère de la très sainte Trinité, je peux parler de relation subsistante. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'y adhère. C'est le propre du croyant. Il adhère sans connaître. Il adhère parce que Dieu me l'a révélé. J'adhère en m'appuyant sur la révélation de Dieu, sur la parole de Dieu. Et là, vous comprenez un peu mieux comment la parole de Dieu contient un mystère. Je peux saisir la raison de la parole humaine, mais la raison de la parole divine, elle m'échappe. Elle repose sur l'inspiration. J'y adhère parce que Dieu me la transmet, et parce que Dieu ne peut pas me tromper, comme c'est dans le temps, dans le catéchisme. J'y adhère parce que Dieu ne peut pas me tromper. Il me parle, donc j'adhère à ce qu'il me dit. Mais j'ai les yeux bandés, je vois pas. Je peux pas voir. Je peux réfléchir sur ce qui est dit. Alors ce sera la théologie. Je peux voir toutes les erreurs qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne respectent pas l'inspiration et la parole de Dieu. Mais le contenu de la parole de Dieu échappe à mon intelligence. Mais je trouve bien une parole. Donc il y a l'analogie de la parole, puisqu'il y a communication d'une vérité. Et dans la parole, qui est une parole qui enseigne, il y a communication d'une vérité. C'est la parole de celui qui enseigne et qui a saisi la vérité qui veut la transmettre. Je ne peux pas définir la parole par la communication de la vérité, puisque quand vous parlez en récréation, vous n'avez pas le souci de transmettre toujours la vérité. Vous blaguez. Bon, vous êtes bonne histoire. Et là, votre imagination s'en donne à qu'un choix. On est Marius. Alors on raconte des tas d'histoires pour amuser les autres, pour les détendre. C'est merveilleusement vertueux. Je ne peux pas définir la parole par la communication de la vérité. Autrement, toutes les paroles humaines seraient infaillibles. Mais je peux dire que pour la révélation par la parole divine, c'est la transmission de la vérité qui implique une signification divine qui m'échappe. Et Dieu, lui, connaît et peut me transmettre. Le mystère de la parole de Dieu, c'est entre l'Esprit Saint, qui me transmet à moi, à mon intelligence transformée par la foi, qui me transmet une vérité. Il la transmet en se servant de la parole humaine. Alors, sur ce point, il y a des difficultés. Essayez de les écrire. C'est excellent d'écrire les difficultés, parce que ça oblige de préciser, et donc de progresser. Parce que, autrement dit, ah, je ne comprends pas, je reste bloqué là-dessus. Je ne comprends pas, je veux comprendre. Oui. Alors, il y a un obstacle, je comprends jusque-là, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la parole de Dieu ? La parole de Dieu est un mystère. Alors je peux me servir de l'analogie de la parole en montrant justement que Dieu se sert de la parole humaine pour transmettre quelque chose qui est parole de Dieu, c'est la parole d'un Père qui m'aime. C'est par pur amour pour moi que Dieu, de la très sainte Trinité, par l'Esprit Saint, me transmet ce message. Je peux dire que toujours, l'adhésion à la parole de Dieu dans la foi me donne une présence. Parce que c'est toujours une parole affective, celle d'un père. C'est pas celle d'un professeur de mathématiques, grâce à Dieu. C'est pas celle d'un professeur de philosophie. Je ne parle pas en philosophe. Je pourrais le faire. Mais ça, c'est humain. Le philosophe, c'est humain. Dieu parle en père. Dieu parle en époux. Dieu parle en ami. Puisque Dieu veut, par sa parole, réaliser une alliance avec moi. C'est par la parole qu'il réalise l'alliance pour que je puisse coopérer avec lui, pour que je puisse me servir de sa parole et vivre davantage. C'est pour ça que la parole de Dieu sera considérée comme la rosée qui vient rendre le terrain fertile pour qu'à partir de là, ça pousse. Et c'est pour ça qu'on dira que la parole de Dieu est une semence. Tandis que je ne peux pas dire que la parole humaine est une semence. Tandis que la parole de Dieu est une semence. C'est une parabole que vous connaissez suffisamment et merveilleusement dans Saint Marc et dans Saint Luc. La parole de Dieu est une semence. Quand Jésus prend la parabole du semeur, il montre bien sur quoi repose la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour être bien reçue, doit être reçue dans la bonne terre. La bonne terre, c'est la foi aimante. C'est une foi transformée par l'Esprit Saint, où il n'y a plus aucun obstacle, on reçoit la parole de Dieu comme une semence, parce que c'est une parole vivante qui, enracinée en moi, va remonter jusqu'à Dieu. Et elle remonte jusqu'à Dieu lorsque je me sers de la parole de Dieu pour prier. C'est pour ça que se servir des psaumes, même si on les comprend mal, c'est quand même très beau, puisque c'est la parole de Dieu qui m'est donné pour m'apprendre à prier. Et quand on chante les psaumes, quand on récite les psaumes, on se met à l'école de l'Esprit Saint pour prier. Alors on est comme des gosses qui ont besoin de temps en temps de recevoir des coups de règle pour se réveiller, parce qu'ils s'endorment facilement, ils ne comprennent rien. Alors ils s'endorment facilement, même quand on gradue les psaumes, n'est-ce pas? Et c'est pas toujours intelligible. Surtout quand on voit les psaumes farouches. Je les extermine, je les sabrerai. Il faut crier ça toute tête. Et demander au Seigneur de sabrer tout de ton tuer. Passer à la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On répète comme des enfants. Le Coran en Algérie, dans l'Afrique, l'Algérie de langue française, on l'apprend aux enfants, ils doivent savoir par cœur, sans rien comprendre, comme ça, pas l'arabe, ils l'apprennent par cœur. Et on voit, vous avez déjà vu une leçon, c'est très curieux, parce que le professeur est rude, il a sa règle, il tape sur les doigts, comme anciennement on faisait. Ah oui, continue la tradition. Pour que ça s'enracine. Alors, est-ce que le Coran est une semence divine? Tout dépend, y a-t-il une inspiration divine? Que simplement une tradition humaine. Je crois que ce n'est qu'une tradition religieuse. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Pas mal. Comme dans toute tradition humaine, tradition religieuse humaine, il y a des choses qu'on charrie qui ne sont pas vraies. Tandis que quand c'est inspiré par Dieu, tout est juste. On peut très bien ne pas comprendre, mais tout est juste. Tout est juste dans les psaumes. C'est pour ça qu'on peut s'en servir comme prière universelle de l'Église. On se sert de la parole de Dieu pour remonter vers Dieu. C'est pour ça que la parole tombe dans la
bonne terre et elle fructifie. Et elle fructifie par la louange. La seconde question qui était posée, quelle nécessité existe entre la pensée et l'énonciation du verbe intérieur? Alors, oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'analyse mon activité intellectuelle, je préciserai qu'il y a une première activité dans le jugement qu'on appelle l'appréhension. Ceci, c'est évidemment Thomas d'Aquin qui l'a précisé à partir des études d'Aristote. Parce que des quantités de philosophes aujourd'hui n'acceptent plus la distinction entre appréhension et jugement. Alors que je crois qu'on doit l'accepter. Donc ici, il faudrait mettre entre l'appréhension et l'énonciation, entre le concept et l'énonciation. Alors, je mets ça très rapidement. Parce que c'est intéressant et c'est important pour l'analyse de l'acte de foi. On a donc l'appréhension. Ne confondez pas appréhension et intuition. Et puis jugement. J'ai conscience de mes jugements. Mes jugements s'expriment toujours d'une manière complexe dans une énonciation. Le jugement le plus simple, c'est ceci. Si quelque